Les autres cimetières majeurs sont le cimetière de Montmartre, le cimetière du Montparnasse, le cimetière de Passy et les catacombes de Paris. De nouveaux cimetières, hors les murs, ont été créés en début du XXe siècle. Les plus grands sont le cimetière parisien de Saint-Ouen, le cimetière parisien de Pantin, le cimetière parisien d'Ivry et le cimetière parisien de Bagneux. Paris, capitale culturelle? Paris est un centre culturel de premier plan. Destination touristique, visitée chaque année par quelques 26 millions de touristes étrangers, Paris dispose notamment de plus de 150 musées, tels le Louvre, et des sites exceptionnels, comme les Champs-Élysées ou la Tour Eiffel. Capitale mondiale des salons et conférences, 5% de l'activité mondiale des congrès sur près de 600 m², de la mode, du luxe, de la gastronomie et, après Venise, de l'amour romantique, Paris propose également un choix important en matière de spectacle, théâtre ou opéra notamment, et présente à un public particulièrement cinéphile un choix, sans égal de films en provenance du monde entier. Les principaux quartiers, pour les sorties nocturnes, sont l'avenue des Champs-Élysées, de la place de la Concorde, jusqu'à l'Arc de Triomphe, la Bastille, Pigalle, la rue Mouffetard, la rue Oberkampf, célèbre pour ses bars, le Marais, la Butte aux Cailles, la place de la République, les rives du canal Saint-Martin, le quartier latin, le quartier des Halles, Montparnasse ou encore la rue de l'Appe. À l'Avga, un casino a reconstitué à une échelle un demi la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et l'Opéra Garnier. Sur le même principe, un promoteur chinois construit actuellement un Petit Paris dans la banlieue de Hangzhou en Chine. Musée. Paris et la région Île-de-France possèdent la plus importante offre muséographique de France. On compte en effet pas moins de 100 musées dans Paris, intramuros auxquels il faut ajouter plus de 110 musées dans la région. Mais au-delà du nombre, c'est surtout dans la diversité des collections que se trouve la plus grande richesse. Capitale multicentenaire au riche patrimoine, Paris attire chaque année de nombreux visiteurs. Le musée le plus ancien, le plus grand en surface et en collection est le musée du Louvre. Avec un record de fréquentation de 8,3 millions de visiteurs en 2006, le Louvre est de loin le musée d'art le plus visité au monde. D'autres possèdent également une renommée mondiale telle le Musée national d'art moderne dans le centre Georges Pompidou, ou le musée d'Orsay, consacré essentiellement à l'impressionnisme. À proximité de Paris, le château de Versailles, palais édifié par le roi Soleil et résidence des rois de France au XVIIe siècle, attire également plusieurs millions de visiteurs par an. Le palais et le parc de Versailles sont classés sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979-161. On trouve des musées sous divers statuts administratifs. Les plus célèbres sont des musées nationaux, c'est-à-dire appartenant à l'État français. D'autres dépendent de ministères, tels le musée de l'armée, hôtel des Invalides, et le musée de l'air et de l'espace du Bourget, qui relève du ministère de la Défense. D'autres relèvent de l'Institut de France ou encore sont des musées privés. La municipalité de Paris possède à gérer quant à elle 14 musées et sites municipaux dont les plus célèbres sont le musée Carnavalet, consacré à l'histoire de Paris, à proximité la maison de Victor Hugo ou encore les catacombes. De nombreuses expositions thématiques y sont organisées, 162. Bibliothèque. Paris accueille un grand nombre de bibliothèques, notamment publiques. La bibliothèque Mazarine, constituée à partir de la bibliothèque personnelle du cardinal Mazarin, est la plus ancienne bibliothèque publique de France. Elle fut ouverte au public en 1643. La Bibliothèque nationale de France se trouve pour l'essentiel à Paris, notamment sur deux sites. Richelieu, situé dans le 2e arrondissement et surtout, François Mitterrand, dans le 13e arrondissement. Elle constitue l'une des plus importantes bibliothèques au monde, avec une collection estimée à 30 millions de volumes. Cet établissement public est le dépositaire en France du dépôt légal depuis le règne de François Ier. La ville gère 55 bibliothèques municipales de prêt généraliste, 163, et une dizaine de bibliothèques municipales thématiques, 164, où il est également possible d'emprunter certains documents. On peut citer parmi les plus connus la bibliothèque historique de la ville de Paris, créée en 1871, qui possède 1 million de livres et brochures, des photographies, cartes et plans liés à l'histoire de la ville, ou la bibliothèque de cinéma François Truffaut, offrant une importante documentation sur le cinéma, 165. Contrairement à l'accès à la BNF et à la bibliothèque Mazarine, l'accès aux bibliothèques municipales est entièrement gratuit même, s'il peut être interdit, aux mineurs dans les bibliothèques thématiques. L'emprunt des livres, Revues, bandes dessinées ou partitions est gratuit, celui des disques et vidéos se fait moyennant un forfait annuel. Il existe en outre des bibliothèques publiques, par exemple la Bibliothèque publique d'information du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, associative ou privée. De nombreuses bibliothèques universitaires sont ouvertes au public. Opéra, théâtre et salles de spectacle. Les plus grands opéras de Paris sont l'Opéra Garnier et l'Opéra Bastille. Ils offrent un répertoire varié de classiques et de modernes. Le théâtre est traditionnellement un lieu majeur de la culture parisienne. Cela demeure vrai, bien que plusieurs de ses acteurs les plus populaires sont également des vedettes de la télévision française. La Comédie française, le théâtre de l'Odéon ou, sur d'autres registres, le théâtre Mogador et le théâtre de la Gaîté Montparnasse figurent parmi les principaux théâtres parisiens. Quelques-uns sont également des salles de concert. Des légendes du monde musical français telles qu'Edith Piaf, Maurice Chevalier, Georges Brassens et Charles Aznavour ont trouvé la gloire dans les salles de concert parisiennes. Bobino, l'Olympia, la Cigale ou encore le Splendid. La salle Pleyel accueille de nombreux concerts symphoniques, la salle Gaveau de la musique de chambre, la maison de Radio France offre, quant à elle, de nombreux concerts d'une grande diversité musicale. L'Élysée Montmartre mentionnée ci-dessous, dont la taille s'est nettement réduite, est devenue une salle de concert. Le New Morning est l'un des quelques clubs parisiens offrant toujours des concerts de jazz, mais on peut y entendre des musiques d'autres horizons. Plus récemment, le Zénith dans le quartier de la Villette et le Palais Omnisport dans le quartier de Bercy, voire le Stade de France à Saint-Denis, où le Parc des Princes propose des concerts à plus grande échelle. Les guinguettes et les cafés-concerts constituaient l'épine dorsale du divertissement parisien avant la Seconde Guerre mondiale. Parmi les exemples précoces, avant le milieu du XXe siècle, on peut citer la guinguette du Moulin de la Galette et les cafés-concerts de l'Élysée Montmartre et du Château Rouge. Les orchestres populaires ont ouvert la voie aux accordéonistes parisiens dont la musique a déplacé des foules à l'Apollo et la Java a fait danser au Faubourg du Temple et à Belleville. En dehors des clubs survivants, de cette époque s'est développée la discothèque moderne. Le Palace, bien que fermé aujourd'hui, en est l'exemple le plus légendaire de Paris. Aujourd'hui, une grande partie du clubbing à Paris se déroule dans des clubs comme le Kin, l'Étoile, le Cab qui sont très sélectifs. Les clubs orientés vers la musique électronique tels que le Rex, le Bateau Phare, un bateau converti en club, ou The Pulp sont assez populaires, et les meilleurs DJ du monde y offrent leurs prestations. Cinéma. Comme ailleurs en Europe, les productions hollywoodiennes réalisent le plus grand nombre d'entrées, mais des réalisateurs comme Claude Lelouch, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol et Luc Besson, et dans un genre de cinéma plus populaire, avec Claude Zidi par exemple, parviennent à préserver le cinéma français. Les films européens et asiatiques sont également assez largement diffusés. Paris comptait en 2007 pas moins de 374 salles obscures fréquentées par plus de 30 millions de spectateurs par an, chiffre 2004, et se distingue par son important réseau de petites salles d'art et d'essais ainsi que par la variété de l'offre, environ 450 à 500 films différents à l'affiche chaque semaine, 166. Toutefois, quelques grands groupes dominent de plus en plus et le cinéma indépendant est fragilisé. Depuis les années 1990, de grands multiplexes de 10 ou 20 salons ont été créés, aux Halles, à Bercy, etc. 167. La plus grande salle de cinéma à Paris est aujourd'hui de loin le Grand Rex avec 2,800 places, alors que toutes les autres salles possèdent moins de 1,000 places. L'ancienne Amérique en enterre de l'architecte Franco-Poingery abrite désormais la Cinémathèque française, au nord de la passerelle Simone de Beauvoir, et dont elle est séparée par le parc de Bercy, fait face au site François Mitran de la Bibliothèque nationale de France. Cafés, restaurants et hôtels. Les cafés sont rapidement devenus une partie intégrante de la culture française de par leur aspect, en particulier à partir de l'ouverture du Café Régence au Palais Royal, en 1688, puis sur la rive gauche du café, Procope un an plus tard. Les cafés dans les jardins de ce dernier lieu sont devenus particulièrement populaires au cours du XVIIIe siècle et peuvent être considérés comme les premières terrasses de café à Paris. Celles-ci ne connurent pas d'expansion jusqu'à ce que les trottoirs et les boulevards aient commencé à apparaître au milieu du XVIIIe siècle. La réputation culinaire de Paris trouve ses fondations dans les origines diversifiées de ses habitants. Avec l'arrivée du chemin de fer au milieu du XIe siècle et la révolution industrielle qui suivit, de nombreux provinciaux sont arrivés dans la capitale, apportant avec eux toute la diversité gastronomique des différentes régions de France et créant de nombreux restaurants de spécialité locale. Chez Jenny est un exemple typique d'un restaurant spécialisé dans la cuisine alsacienne et, au Lyonnais, est un autre exemple caractéristique de cuisine régionale de ville évoquée. Naturellement, l'immigration de régions, bien plus éloignée, a apporté une encore plus grande diversité culinaire et aujourd'hui, en plus d'un grand nombre d'établissements de cuisine du Maghreb ou d'Asie, on trouve à Paris des établissements proposant des préparations culinaires en provenance des cinq continents. La présence de nombreux hôtels dès la fin du XIe siècle, en partie liée aux expositions universelles, est une autre conséquence de l'augmentation du nombre de voyageurs et de touristes dans la capitale. Parmi les plus luxueux, l'hôtel Ritz est apparu sur la place Vendôme en 1898 et l'hôtel de Crillon a ouvert ses portes sur le côté nord de la place de la Concorde en 1909. Festivités et événements. Le caractère festif de la ville semble à nouveau à l'honneur depuis les opérations de Paris Plage ou Nuit Blanche. Paris accueille tout au long de l'année de très nombreuses festivités, dont certaines se démarquent particulièrement. Fin janvier, les rues du Xi arrondissement s'animent avec les célébrations du Nouvel An chinois, tandis que le cortège traditionnel du carnaval de Paris défile, chaque année, au mois de février, en passant à travers la ville. Fin février se déroule le Salon international de l'agriculture. Mars voit se tenir le Salon du livre tandis que fin avril, ou début mai la Foire de Paris, rappelle les grands rassemblements médiévaux. Le marathon de Paris a lieu courant avril dans les rues de la ville et la Gaîperie en juin. Le 14 juillet est l'occasion du traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées où s'achève à la fin du même mois le Tour de France cycliste. C'est également entre juillet et août qu'est organisée depuis 2002 l'opération Paris-Plage qui consiste à transformer une partie des quais de Seine en plage avec transat et activités. Octobre est le mois du mondial de l'automobile les années paires qui alterne avec le mondial du deux roues les années impaires. Le même mois accueille la FIAC, Foire internationale d'art contemporain, et depuis 2002, Nuit Blanche, qui permet au public d'assister gratuitement à différentes expressions de l'art contemporain à travers la ville, pendant la nuit du premier samedi au premier dimanche d'octobre. Le deuxième samedi d'octobre, Montmartre renoue avec son passé viticolore de la fête des vendanges. Médias. La plupart des grands groupes de médias français ont leur siège à Paris. La presse parisienne est représentée par plusieurs journaux. Le Parisien est le quotidien emblématique de la capitale, décliné aujourd'hui en plusieurs versions départementales en banlieue. 20 Minutes et Métro sont deux quotidiens gratuits qui, sans être parisiens d'origine, sont particulièrement lus. Le premier est diffusé en Île-de-France à 510,000 exemplaires, ce qui représente de très loin sa plus importante diffusion nationale. Un francilien lisant son « gratuit » dans les transports publics aux heures de pointe, est devenue une image habituelle de la capitale. L'officiel des spectacles, le Pariscope, qui n'existe plus en version papier, et Urban, également disparu, offre le programme culturel exhaustif de la métropole. Paris Frimousse est quant à lui un mensuel recensant les activités culturelles pour les enfants. La télévision locale reste relativement peu développée et diffusée, contrairement à plusieurs métropoles de France. On peut citer, outre les programmes régionaux de la chaîne nationale France 3, quelques chaînes associatives ou de collectivités locales. Delifre rassemble sur un unique canal diffusé par le câble, la DSL ou le satellite les chaînes locales de la région, Vaud'e, Val d'Oise, Télé-Saône, Essonne, TVM Parisien, Seine-Saint-Denis, Dauphil 78, Yvelines, et RTV, Rosny-sous-Bois. Zaléa TV, chaîne associative parisienne, est périodiquement diffusée par voie hertzienne en fonction des autorisations distribuées et qui ont parfois poussé la chaîne à des diffusions pirates. Leplaisance.org, autre chaîne associative, diffuse uniquement des programmes amateurs. Les deux chaînes sont disponibles en 2007 grâce à une diffusion via Internet. Paris, centre littéraire et intellectuel. Dès l'XIe siècle, le rayonnement de son université fait de Paris l'un des grands foyers intellectuels du monde chrétien. L'adoption du dialecte parisien par la cour affirme cette vocation. Durant la Renaissance, la ville devient un foyer de l'humanisme. Avec la progressive centralisation du pouvoir, Paris se trouve renforcé dans sa prééminence culturelle en France. Vers le milieu du XIe siècle, Paris et ses salons deviennent le centre presque unique de la littérature française. Dans le dernier tiers du siècle, le prestige de la cour de Louis XIV à Versailles éclipse un peu celui de Paris. Toutefois, la vie intellectuelle parisienne reste active, création de la Comédie-Française, sous le patronage du roi, en 1680. Au cours du XVIIIe siècle, Paris redevient le centre culturel du royaume. Les salons parisiens connaissent leur plus bel essor. Voltaire, au ton léger et ironique, est l'écrivain parisien par excellence. À l'inverse, Jean-Jacques Rousseau fuit cette ville, de bruit, de fumée et de boue, et se réfugie à Montmorency, à 4 lieues de là, avant de s'y réinstaller en 1770. Après la Révolution, le monde littéraire se fait plus large, plus complexe. Paris n'en demeure pas moins le cœur de la vie intellectuelle française, en accueillant Chopin et des progressistes, Comène, menacés ou chassés de différents pays d'une Europe restée globalement très conservatrice. Dans les années 1920, beaucoup d'écrivains étrangers viennent découvrir Paris et s'en inspirent dans leur œuvre. Ernest Hemingway, Henry Miller, Gertrude Stein, etc. et d'autres viennent y chercher l'espoir. D.H. Lawrence, James Joyce, etc. Montparnasse, quartier des artistes depuis la fin du XIXe siècle, connaît son âge d'or. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est Saint-Germain-des-Prés qui devient le foyer littéraire le plus célèbre, avec la présence de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Boris Vian ou encore Jacques Prévert, 168. On considère généralement que le prestige intellectuel de Paris a baissé dans le monde depuis cette époque. Mais elle reste la principale ville de l'activité littéraire et de l'édition française. Aujourd'hui, presque chaque quartier de Paris possède sa plaque rappelant le séjour d'un écrivain. Auteur, Sacha Guitry clama en ces mots son attachement à Paris. Être valentinois, c'est être natif de Valence, draguignienne et de Draguignan, briochin de Saint-Brieuc. Mais être parisien, ce n'est pas être né à Paris, c'est y renaître, et ce n'est pas non plus y être, c'est en être, et ce n'est pas non plus y vivre, c'est en vivre. Car on en vit, et on en meurt. Être de Paris, ce n'est pas y avoir vu le jour, c'est y voir clair. On n'est pas de Paris, comme on est de Clermont, mais on est de Paris, comme on serait d'un cirque. On est élu parisien, élu à vie. C'est une dignité? C'est une charge aussi. On doit être à ses ordres, à sa dévotion quand Paris vous a fait l'honneur de vous admettre. Aimez Paris orgueilleux, car il vous devient à ce point nécessaire qu'on arrive à croire qu'on peut lui être utile. Paris dans les arts et la culture? Paris dans la littérature. Depuis longtemps, Paris a inspiré les écrivains. Au XVIe siècle, François Villon plonge dans les bas-fonds de Paris pour amorcer son œuvre majeure, Le Testament. Toutefois, au XVIIIe siècle et, dans une moindre mesure au XVIIIe siècle, la description de la réalité parisienne contemporaine intéresse peu les auteurs. Au XIXe siècle, les écrivains français s'attachent davantage à décrire la réalité de leur temps de manière plus exacte. Sous la monarchie de Juillet, Honoré de Balzac cherche à brosser un tableau détaillé et moderne de la société française, c'est la Comédie humaine, 169. Paris occupe une place privilégiée dans cette œuvre, et pas seulement dans les scènes de la vie parisienne. Il distingue par la diversité des réseaux de relations, c'est là que sont possibles les succès les plus fulgurants, là que l'on cherche la gloire, 170, mais aussi là que l'on peut tomber dans l'anonymat le plus absolu, 171. Si Balzac s'intéresse avant tout à la haute société ou aux ambitieux désargentés, on commence à la même époque à s'intéresser à la ville populaire, perçue comme menaçante et fascinante. Des études paraissent sur les « classes dangereuses » d'une ville en expansion. Les mystères de Paris d'Eugène Sue, qui fait une très large place au Paris de la Pègre, connaît un immense succès lors de leur parution en feuilleton en 1842-1843. 20 ans plus tard, c'est l'autre plus grand romancier de Paris, Victor Hugo, qui publie Les Misérables, autre volumineux ouvrage traitant du Paris populaire devenu un classique. Paris fascine avec une double image. Une ville fastueuse et prestigieuse, Stendhal sublime le Frascati, Balzac chante le boulevard des Italiens, Nerval ou Baudelaire ne jure que par le divan le pelletier, mais aussi une ville populaire où règne le vice. Gérard de Nerval s'y suicide dans le lieu le plus sordide qu'il ait pu y trouver. Le Paris en mutation d'Haussmann est largement décrit par Émile Zola dans Elle. Ergon Macquart, le ventre de Paris, mène au bonheur des dames. Il est le cadre des errances et état d'âme des poètes parnassiens, et symboliste et surtout de Baudelaire, le spleen de Paris. Dans les années 1960, les écrivains transforment Paris en une ville mythique, parfois drôle et burlesque, comme Zazie dans Le métro de Raymond Queneau, ou encore pleine de souvenirs, comme Je me souviens de Georges Prec. La ville fascine encore les écrivains de la nouvelle génération, tels Patrick Modiano, et le quartier de Belleville, où Jean-François Villard, et le quartier de la Bastille. Paris dans la peinture et la sculpture. Paris a été une source d'inspiration pour de nombreux artistes qui ont diffusé son image dans le monde entier. Aucune représentation de la ville n'existe jusqu'aux guerres de religion à la fin du XVIe siècle. C'est sous les règnes d'Henri IV et de Louis XIII que la ville est représentée par Jacques Callot et par les peintres hollandais de Vroeger et Zeeman, en particulier les bords de Seine qui les fascinent. Le Louvre devient un sujet de prédilection au XVIIIe siècle, mais il faut pourtant attendre la vogue de la peinture, en plein air au XVIe siècle, pour voir les artistes s'intéresser à la vie parisienne et aux paysages urbains en mutation. Corot plante son chevalet sur les quais de Seine, Monet représente l'atmosphère vaporeuse de la gare Saint-Lazare, Renoir décrit la vie montmartroise, Moulin de la Galette, le Moulin Rouge, Pissarro peint le pont 9 et 6 l'île Saint-Louis. Puis, au tournant du siècle, sera Gauguin, parisien de naissance. Cézanne et Van Gogh représentent largement Paris dans leur œuvre. Toulouse-Lautrec est peut-être le plus parisien dans l'âme, mais il s'intéresse plus au cabaret et au bas. Est-ce fond parisien qu'il fréquente assidûment qu'au paysage. Au XXe siècle, les plus parisiens des peintres sont certainement Marquet et Utrillo qui représentent souvent les quartiers déshérités de la ville. Matisse, Vlaminck et Dorin mènent une vie de bohème au bateau Lavoir à Montmartre tandis que Léger, Modigliani, Chagall, Zemkin et Soutine s'installent dans les ateliers de la ruche à Montparnasse, c'est l'âge d'or de l'école de Paris qui laisse place au surréalisme après la Seconde Guerre mondiale. Les sculpteurs François Rude, la Marseillaise, composition la plus forte de l'Arc de Triomphe, puis Jean-Baptiste Carpeaux avec la fontaine de l'Observatoire, précèdent les grands maîtres de la fin du XIXe siècle, dont d'innombrables œuvres ornent la voie publique parisienne. Rodin, Dalou, Jardin du Luxembourg, Place de la Nation, Bourdelle, Palais de Tokyo, Mayol, Jardin des Tuileries, puis Paul Landowski, Sainte-Geneviève au pont de la Tournelle. L'art nouveau a trouvé un étonnant débouché en 1900, avec le métro de Paris naissant, dont Guimard orna alors plusieurs dizaines de bouches d'entrée. L'art contemporain s'illustre par exemple au Palais Royal, avec les colonnes de Buron ou à Beaubourg avec la fontaine Stravinsky. Paris dans la musique et la chanson. Paris constitue un thème et un cadre pour d'innombrables chansons et œuvres musicales. La tradition musicale à Paris remonte au Moyen-Âge avec la création à la fin du XIe siècle de l'école polyphonique de Notre-Dame, dont les œuvres expriment la foi médiévale. Sous François Ier naît à Paris l'imprimerie musicale française et les premières chansons populaires apparaissent. Sous le règne de Louis XIV, les grands opéras sont représentés à Paris. Lully s'y installe et devient responsable de la musique de la cour. Ses ballets sont représentés au Louvre à partir de 1655. Au XVIIIe siècle, Rameau accentue le rôle de l'orchestre dans ses opéras-ballets, la musique s'impose dans les salons. L'histoire de France influence également la musique parisienne. De nombreuses chansons populaires sont créées durant la Révolution française, la Carmagnole devient l'hymne des sans-culottes, en 1792. Au XIXe siècle, Paris devient la capitale de la musique, plus par les grands maîtres étrangers qu'elle attire par son rayonnement que grâce à ses propres compositions. La musique évolue progressivement vers le romantisme, incarné par exemple par Frédéric Chopin. Gounod renouvelle l'opéra lyrique tandis que Berlioz importe la musique descriptive. La musique festive de danse de Paris, au XIXe siècle, est célèbre dans le monde entier. Jouée notamment au moment du carnaval de Paris, elle influence des musiques traditionnelles et des compositeurs étrangers. Au nombre de ceux-ci, on trouve Johann Strauss-Père venu à Paris à l'invitation de l'alors très célèbre Philippe Musard. Ce dernier, ainsi que des dizaines d'autres compositeurs parisiens, très fameux à l'époque, Julien, Tolbecque, etc., sont à présent largement et très injustement oubliés. Des centaines de partitions attendent d'être rejouées. Leur renaissance sera un très grand événement festif et musical. Après 1870, Ducas, Saint-Saëns ou Bizet font de la France la maîtresse de la musique de ballet. Le caractère national de la musique revient avec Ravel et Debussy, musiciens impressionnistes. La fin du XIXe siècle est aussi l'époque des chansonniers dont le Chat Noir est le lieu de représentation emblématique immortalisé par Toulouse-Lautrec. Au XIXe siècle, les chansons d'Édith Piaf, La Môme de Paris, ainsi que celles de Maurice Chevalier, incarnent la chanson populaire parisienne dans le monde entier. Plus récemment, Jacques Dutronc chante en 1968, Il est 5 heures, Paris s'éveille, 172, et Dalida devient une des plus célèbres montmartroises où une place porte son nom et un buste lui est sculpté en son hommage 10 ans, après sa disparition, 173. Paris dans la photographie. Dès l'invention de la photographie, de nombreux artistes ont cherché à capter l'atmosphère de la ville et sa vie quotidienne prise sur le vif. Initié par Eugène Agey, 1857-1927, 174, la photographie de scènes de rue et petits métiers aujourd'hui disparus est incarnée par Robert Doisneau, 1912-1994, un des premiers grands photographes de Paris, 175. Les scènes insolites constituaient ses sujets de prédilection. Les enfants jouant dans les rues, les concierges, les bistrots, les marchés, etc. Ces photographies sont pleines d'humour et de tendresse, la plus célèbre étant le baiser de l'hôtel de ville, 176. Les images de Willy Rennie évoquent le Belleville et le Ménilmontant d'autrefois, saisissant illustration d'une atmosphère populaire à jamais disparue, 177. Marcel Bovy, 1904 à 1997, a quant à lui représenté la magie de Paris la nuit. Paris au cinéma. Paris est une des villes les plus filmées au monde. Outre l'importante production française, les réalisateurs étrangers qui l'ont choisi pour cadre sont nombreux. Parmi une longue liste de films, quelques chefs-d'œuvre du cinéma français sont devenus des classiques. Hôtel du Nord, 1938, fut le cadre de la célèbre réplique d'Arletty, Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Le petit hôtel au bord du canal Saint-Martin, où le film ne fut d'ailleurs pas tourné, 178, est devenu un lieu de pèlerinage cinéphile. La traversée de Paris, 1956, rappelle une certaine réalité de l'occupation en 1943, tout comme le dernier métro, 1980. Tandis que Paris brûle-t-il? 1966 évoque la libération de Paris en août 1944. Plus récemment, Chacun cherche son chat, 1996, est une tranche de vie d'un immeuble parisien montrant l'isolement dans une grande métropole et la solidarité qui peut pourtant y exister. Enfin, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, 2001, est un conte contemporain dans un Paris mythique et intemporel. Ce film, qui rencontra un succès populaire international, a amené de nombreux cinéphiles à Montmartre à la recherche des lieux emblématiques du tournage. Le cinéma international est incarné par de grands succès, comme Tout le monde dit I love you, 1996, de Woody Allen, Moulin Rouge, 2001, ou Da Vinci Code, 2006, qui ont choisi la ville pour cadre. Plus récemment, en 2007, grâce à son image et à sa position de capitale de la gastronomie, Paris a été choisi comme cadre de l'action du film d'animation américain Ratatouille, 179. Paris dans la culture populaire. L'argot parisien, révélé par les écrivains du XXe siècle comme Victor Hugo, Eugène Sue ou Balzac, reste très vivace à Paris jusqu'aux années 1950. L'évolution sociologique et ethnique de la population parisienne explique en grande partie cette mort de l'argot parisien qui ne se pratique plus vraiment dans la rue, mais qui fit longtemps la joie des lecteurs de romans comme San Antonio, des spectateurs de films dialogués par Michel Audiard ou des auditeurs de chansons de Pierre Perret, de Renaud, Titi Parisien par excellence, ou de sketchs de Coluche. Aujourd'hui, des jeunes auteurs de romans tels que Anthony Michel et son personnage Tony Truant reprennent ce genre de langage. Depuis, l'embourgeoisement de la capitale et l'arrivée massive de populations provinciales et étrangères contribuent progressivement à la disparition de l'argot parisien, supplanté par le verlan, 180, et de nouvelles formes d'expression développées en banlieue, éventuellement ponctuées de mots empruntés aux langues étrangères, tels est-ce que le rat. On appelle souvent Paris la ville lumière, qui doit ce qualificatif à la création de l'éclairage public par Gabriel Nicolas de la Reynie au XVIIIe siècle. Paris est surnommé familièrement Paname, surnom donné au début du XX siècle aux Parisiens, qui avaient adopté le chapeau dit Panama, mis en vogue par les ouvriers, qui creusaient le canal du même nom au début du XX siècle. Cette coiffe très pratique s'exportait principalement vers les États-Unis et l'Europe. Elle avait fait fureur à Paris, où tous les hommes portaient un Panama. Ce chapeau a donné lieu à de nombreuses chansons. Plus anciennement, Paris et aussi une de ses proches banlieues, Pantin, était surnommée, argotiquement, Pantruche, d'où le nom de la compagnie carnavalesque parisienne, les Fumantes de Pantruche, présentes au Carnaval de Paris. Parigot est un terme d'argot qui désigne un Parisien. Ce terme est généralement considéré comme péjoratif ou au moins moqueur. Paris, capitale internationale. Jumelage. Paris est jumelé avec une seule ville, Italie-Rome, depuis 1956. FR. Seul Paris est digne de Rome, seul Rome est digne de Paris. I. Solo parigieux accent grave de Niadi Roma, solo romaeux accent grave de Niadi Parigi. La ville a également conclu des accords d'amitié et de coopération avec de nombreuses villes dans le monde. Paris, siège d'organisations internationales. Plusieurs organisations internationales ont leur siège à Paris. On peut citer l'UNESCO, l'OCDE, le Secrétariat international de la Chambre de commerce internationale, le Groupe d'action financière, GAFI, ou encore l'Association mondiale nationale, SA. Paris, capitale de la mode et du luxe. En 1945, il existait pas moins de 106 maisons labellisées haute couture en France, essentiellement concentrées sur Paris, et parmi elles la plus célèbre, Givenchy. Aujourd'hui, elles ne sont plus qu'une douzaine. Les plus anciennes, Dior, Jean-Louis Scherrer, Emmanuel Hugaro, Chanel, Yves Saint Laurent, de plus récentes comme André Courrèges et Pierre Cardin, ou encore les plus modestes, Dominique Ciro, Adeline André et Franck Sorbier. Ces maisons de haute couture excellent tant dans la mode que dans la parfumerie. Ainsi, Chanel numéro 5 ou Arpège, apparu dans les années 1920, sont devenues incontournables, tout comme Miss Dior dans les années 1940. Parallèlement à la parfumerie, se développe la maroquinerie, Vuitton et Hermès. Vuitton, l'inventeur des premières malles confortables et raffinées, est devenu un des premiers en la matière. Certains se partagent la marché de la mode et de ses accessoires. Guy Laroche, Nina Rixi, Marcel Roche A, Pierre Balmain. De nos jours, de nouveaux créateurs apparaissent comme Jean-Paul Gaultier, qui a remis les corsets à la mode. Claude Montana, Christian Lacroix, qui mise sur l'explosion des couleurs. Ou encore Chantal Thomas, spécialiste des sous-vêtements sexy. Le prêt-à-porter n'est pas en reste, avec Jean-Charles de Castelbajac ou encore Vanessa Bruno et Isabelle Marant. Aujourd'hui, Paris doit faire face à la concurrence de New York, Los Angeles, Milan et de certaines villes asiatiques. La ville occupe néanmoins une place éminente sur la scène mondiale, en particulier pour la joaillerie, concentrée place Vendôme et rue de la Paix, et la haute couture. L'habillement de luxe est particulièrement présent dans le 8e arrondissement, avenue Montaigne ou rue du Faubourg Saint-Honoré notamment. On y trouve le siège de LVMH, premier groupe mondial dans le secteur du luxe, Hermès, Cartier, Dior et les boutiques de nombreux grands couturiers indépendants ou affiliés à de grands groupes tels que LVMH ou PPR. Paris est aussi une des capitales du shopping et des magasins aux enseignes réputées et présente partout dans le monde les galeries Lafayette ou le Printemps. La ville vit naître les grands magasins modernes, fondés sur l'idée révolutionnaire, à l'époque, de présenter un assortiment large et profond, des prix fixes et apparents, un accès direct et une mise en valeur de la marchandise dans un espace de vente dont l'agencement, la composition et les décors ont été réfléchis. Le premier exemple du genre est le Bon Marché transformé en 1852. En 1883, Émile Zola, dans le roman Au bonheur des dames, décrit la vie d'une employée d'un grand magasin. Santé. De nombreux hôpitaux sont implantés dans Paris, dont certains sont particulièrement anciens, la tradition hospitalière remontant au Moyen-Âge. L'Hôtel Dieu de Paris, fondé en 651 par Saint Landry, évêque de Paris, est le plus ancien établissement de la ville. Symbole de la charité et de l'hospitalité, il fut le seul hôpital de Paris jusqu'au XIe siècle, 181. La plupart des établissements relèvent de la PHP, Assistance publique, Hôpitaux de Paris, établissement public de santé créé par la loi du 10 janvier 1849 et relevant de la ville de Paris. Elle exerce le rôle de centre hospitalier régional pour Paris et l'Île-de-France et emploie plus de 90,000 personnes, dont de nombreux médecins et des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, FPH. L'hôtel de Miramion dans le 5e arrondissement, qui abritait un hôpital, a été transformé en musée de l'assistance publique, Hôpitaux de Paris, et évoque l'histoire hospitalière de la ville. Parmi les principaux établissements, on peut citer dans Paris, Intramuros l'hôpital Necker, Enfants Malades, La Pitié-Salpêtrière, Saint-Antoine, Saint-Louis, Bichat Claude Bernard ou le dernier né, l'hôpital européen Georges Pompidou. En petite couronne, proche banlieue. Les établissements hospitaliers Henri Mondor, Créteil, Bicêtre, le Kremlin Bicêtre, le Rhin-Simont-Fermeil ou encore Beaujon, Clichy, sont parmi les plus connus, 182. La Grande Couronne parisienne possède plusieurs hôpitaux généralement intercommunaux, ne relevant pas de l'APHP. On peut citer les hôpitaux Victor Dupuy d'Argenteuil, 183, ou encore le Centre hospitalier de Versailles, 184. On peut également citer parmi les institutions hospitalières l'hôpital des 15-20, fondée en 1260 par Saint-Louis et dont le but était de recueillir les aveugles de Paris, l'hôpital militaire du Val-de-Grâce ou encore l'hôpital américain de Paris, fondé en 1906 et situé à Neuilly-sur-Seine, qui relève d'un statut particulier d'établissement privé à but non lucratif, agréé non, conventionné par la Sécurité sociale. Paris est par ailleurs une des villes de France les plus denses en médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes. On comptait en 2005 pas moins de 5840 médecins généralistes contre par exemple 3349 au total, en Seine-Saint-Denis et dans le Val d'Oise, à la population cumulée légèrement plus élevée, 185. Sport. L'histoire de Paris est très marquée par le sport. Du jeu de paume dès l'Auxi-siècle au football au XVI siècle en passant par les courses hippiques et le cyclisme au XX siècle, Paris a toujours connu les joies du sport depuis au moins un millénaire. La ville compte 360 équipements sportifs, 172 cours de tennis, 131 gymnases municipaux, 36 piscines, accueillant 3,4 millions d'entrées individuelles en 2006, et 10 bassins écoles, 32 stades municipaux, 2 bases nautiques sans oublier les 6 parcs interdépartementaux, qui sont répartis dans les 3 départements touchant Paris, et facilement accessibles, 186. Les principaux clubs de sport de Paris sont le Paris Saint-Germain, football, le Paris Levallois Basket, basketball, le Paris Handball, handball, et le Stade Français, club de rugby à 15. Le Parc des Princes est un stade édifié en 1897 au sud-ouest de Paris et reconstruit en 1972. Il compte 45,500 places assises. Son club résident actuel est le Paris Saint-Germain, 187. Le Palais Omnisports de Paris-Bercy est un vaste espace modulable clos de l'Est parisien inauguré en 1984, qui accueille de nombreuses compétitions sportives mais fait également office de salle de spectacle et reçoit diverses manifestations, concerts, patinoires, etc. 188. Le Stade Charletti, créé en 1939 et reconstruit en 1994, est réputé pour être le temple du sport amateur à Paris. Il comprend un stade d'athlétisme de 20,000 places et une salle omnisport de 1,500 places, 189. Le Stade de France de 80,000 places fut édifié à Saint-Denis, en proche banlieue nord pour la Coupe du Monde de football de 1998 et est utilisé toute l'année pour les matchs à domicile de l'équipe de France de rugby durant le tournoi Destination et parfois pour de grands matchs de l'équipe de rugby du Stade Français. En 2007, plusieurs matchs de la Coupe du Monde de rugby furent joués au Stade de France, dont la finale. Paris a également accueilli les Jeux Olympiques en 1900 et 1924, mais fut une candidate malheureuse à l'organisation des Jeux d'été de 1992, 2008 et 2012, Paris 2012, finalement revenue respectivement à Barcelone, Pékin et Londres. Elle fut par ailleurs la ville d'accueil des matchs de la Coupe du Monde de football en 1938 et 1998. Bien que le point de départ et l'itinéraire du célèbre Tour de France changent chaque année, l'étape finale s'achève toujours à Paris et, depuis 1975, la course finit sur les Champs-Élysées. Le tennis est un autre sport populaire à Paris et dans l'ensemble de la France. Les internationaux de France de Roland-Garros, tenus chaque année sur la terre battue du stade Roland-Garros à proximité du bois de Boulogne, sont l'un des 4 événements du Grand Chelem du tennis professionnel, 190. Culte. Catholicisme. L'archidiocèse métropolitain de Paris est l'un des 23 archidiocèses de France. Diocèse depuis le 3e siècle, le siège de Paris a été érigé en archidiocèse le 20 octobre 1622. L'archevêque actuel est le cardinal André XXIII, qui a pour évêque auxiliaire Mgr Jérôme Daniel Beau, Jean-Yves André Michel Namia et Michel Polien. Il remplace à cette fonction Mgr Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris de 1981 à 2005. En 2005, la ville comptait 106 paroisses catholiques accueillant les fidèles et 24 missions étrangères. On compte également 7 églises catholiques orientales, rattachées à l'ordinariat des catholiques des églises orientales résidant en France, copte, chaldéenne, grecque melkite, maronite, roumaine, russe et syriaque. La même année, on comptait 730 prêtres, 2,500 religieuses, environ 220 communautés religieuses, 142 femmes et environ 80 d'hommes, 191. Parmi les grands lieux de pèlerinage, les deux principaux sont la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, où les fidèles assurent depuis 1885 l'adoration perpétuelle, 192, et la chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, où la Vierge Marie serait apparue plusieurs fois en 1830 à Sainte-Catherine-Labouret, 193. Calvinisme. Paris compte 15 paroisses de l'Église réformée de France, 194. Luthéranisme. Paris compte 10 paroisses de l'Église évangélique luthérienne de France, 195. Judaïsme. La ville possède 96 synagogues, 196. Islam. La grande mosquée de Paris accueille les fidèles depuis 1926, sur plus d'un hectare de superficie, place du Puy de l'Ermite dans le 5e arrondissement, 197. Bouddhisme. Un temple se situe dans le bois de Vincennes, sur la rive méridionale du lac d'Aumesnil, dans un ancien pavillon de l'exposition coloniale de 1931. Deux autres se trouvent dans le quartier asiatique de Paris, dans le Xi arrondissement. Paris, le mythe et la réalité. L'histoire de France et celle de sa capitale sont depuis longtemps intimement liées, du « Paris vaut bien une messe ». Attribué à Henri IV qui y laissera sa vie, au « Paris, Paris outragé ». Paris brisé. Paris martyrisé. Mais Paris libéré. 198. Célèbre phrase du général de Gaulle prononcée le 25 août 1944, lendemain de la libération de Paris. En effet, tous les grands événements emblématiques de la nation se sont déroulés à Paris, capitale concentrant tous les temps forts, tensions et douleurs se mélangeant aux joies collectives, grandes heures de la Révolution française, Commune de Paris, manifestation du Front populaire. Les pages de l'histoire de France peuvent donc facilement s'illustrer par Paris, qui, loin de n'être que le centre de la vie politique du pays, bénéficie d'une image qui, par son rayonnement culturel, ne peut se réduire à une accumulation de clichés. Sa cour des miracles, ses monuments mondialement célèbres, la tour Eiffel, son métropolitain, ses expositions universelles, les chansons, celles de la belle époque, de « L'entre-deux-guerres », de l'inoubliable Édith Piaf, ou de Maurice Chevalier. La ville de la fête et de la frivolité, avec ses cabarets, du swing et du jazz de l'après-guerre, des cinémas, est aussi celle du progrès, celle où se réalise la réussite sociale, si souvent décrite dans la littérature. Cet ensemble a constitué le mythe de Paris. Ses représentations s'assoient sur une dualité, une représentation matérielle et une spirituelle et symbolique. Pourtant, la ville a fortement évolué au cours des siècles, les travaux d'Haussmann l'ont radicalement modifiée, les transformations des « Trente Glorieuses » ont encore modifié l'aspect de plusieurs quartiers au point de les défigurer, des générations de Parisiens se sont succédées, Paris change sans cesse, Paris évolue mais, Paris sera toujours Paris, par sa façon de se transformer sans cesse tout en restant la même et en conservant son âme, 199. Paris ne parvient toujours pas à concilier concentration de richesse et qualité de vie, contrairement à plusieurs grandes villes de France qui ont su développer leur attractivité économique et culturelle tout en conservant un environnement de qualité, ce qui explique en partie leur dynamisme démographique que ne possède plus Paris, ni la région Île-de-France. La capitale reste largement en tête des villes de France pour sa puissance économique, le choix de filières et d'écoles, pour l'enseignement supérieur, son offre culturelle d'exception, l'offre de soins et la qualité d'accès aux nouvelles technologies, couverture ADSL à 100%, large concurrence des opérateurs Internet, et récemment le déploiement de la fibre optique résidentielle et du Wi-Fi gratuit, mis en place par la municipalité. Mais elle demeure une des villes les moins sûres du pays quant à la sécurité. Sa qualité environnementale, pollution, part réduite des espaces verts, reste médiocre et les prix de l'immobilier ne cessent d'atteindre les sommets. 200. Ces données nationales sont toutefois à relativiser, en effet, selon l'indice Mercer, Paris est la 33e ville du monde en termes de qualité de vie, avec un indice de 102,7, supérieur à des villes comme Londres ou Tokyo, en ne se classant toutefois qu'en 60e position, en termes d'hygiène et de santé, notamment handicapée par son niveau de pollution, malgré la qualité de ses soins médicaux, 201.